Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 2017, près d'un Français sur deux avait déjà fumé du cannabis. Ces consommateurs sont des adultes responsables, majeurs. Et si l'on s'en tient au principe bien connu d'une éthique minimale, on peut dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent, y compris ce qui est mauvais pour eux, pourvu que cela ne nuise pas à autrui. L'usage du cannabis chez les adolescents qui nous intéresse aujourd'hui est différent. Avant d'écouter les histoires étonnantes que je vous propose à ce sujet, laissez-moi vous donner quelques chiffres. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie nous apprend d'abord que ça commence en moyenne à 15,3 ans et qu'alors, un ado sur quatre qui fume régulièrement présente un risque élevé d'usage problématique ou de dépendance au cannabis. Ça fait beaucoup. Deux études ensuite, l'une finlandaise et l'autre anglaise, démontrent que les ados qui fument régulièrement ont un risque trois fois plus élevé d'avoir eu à 18 ans un trouble psychotique que les autres. Enfin, une étude néo-zélandaise citée par Le Monde établit qu'en cas de fumette régulière et prolongée à partir de l'adolescence, la baisse du quotient intellectuel à l'âge adulte peut aller jusqu'à moins 8 points. Adulte poursuit l'enquête que je cite, ceux qui sont touchés par ces effets sont désavantagés pour trouver un emploi et ils gagnent en moyenne moins d'argent, ils ont plus de risques de maladies cardiaques, d'Alzheimer ou de mourir prématurément. Ce sont des données un peu anxiogènes qui n'apportent évidemment pas de solution, qui ne plaident pas forcément pour la pénalisation, mais qui seraient peut-être utiles à rappeler à titre préventif dans les cours de récréation et les salles de classe des collèges et lycées où les ados de France et de Navarre commencent à tirer sur leur premier bédo, comme on l'entend tout de suite dans ces récits signés Olivia Muller.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Alex, j'ai 18 ans, bientôt 19, et j'habite à Montreuil. Je suis en bac pro vente, et voilà. Du coup, j'ai commencé à fumer quand j'avais 15 ans, lorsque j'habitais en Guadeloupe. Tous mes potes fumaient, du coup, j'ai tiré un petit peu. J'avais pas vraiment... réellement commencé à fumer, ça s'est surtout passé quand je suis rentré au lycée en métropole en France. J'ai commencé à rouler avec un pote, on galérait à rouler, mais on a commencé à fumer un peu. Après, ça devenait de plus en plus récurrent. On sortait des cours, on allumait un joint. Après, c'était à midi, après c'était le matin. Bah, ça devenait de plus en plus. Et au fur et à mesure, bah, j'avais plus trop l'effet d'une bulle, mais plus la recherche de la défonce qu'autre chose. Ça fait que je me suis renfermé sur moi un peu, alors que je suis pas du tout comme ça, que je suis quelqu'un de très cool. T'as pas envie d'aller en cours aussi, tu te réveilles le matin, t'es défoncé encore de la veille, t'arrives même pas à te lever. Enfin, moi c'est surtout ça qui m'a gêné. Enfin, on fait pas exprès, hein, vraiment, c'est un truc, ça te défonce tellement, tu peux pas, t'arrives même pas, ça coupe l'envie de vivre carrément, l'envie de vivre. C'est grand, mais c'est ça en fait. J'étais à peu près à 8 joints, 10 joints par jour. Ça dépendait parfois 5, parfois 15, parfois 20. Parfois je fumais toutes les heures. Limite, je sortais de cours, je me roulais un joint vite fait. Je fumais la moitié, je le jetais. Je rentrais en cours juste pour passer le temps et retrouver cet état en cours parce que je me fais chier en fait. Enfin, je fumais pour vraiment passer le temps. Genre, c'est con, c'est nul, mais c'est vrai. Puis au final, t'es là, tu rentres chez toi, tu fais même pas tes devoirs, tu fumes ton joint, t'écoutes de la zik, t'appelles un pote, tu sors, tu fumes, tu rentres, tu fumes, j'ai pu, je vais acheter, je fume. Enfin, c'est un putain de cercle vicieux. Je me disais, putain, ouais, j'ai trop fumé, mais en soi, je m'en fichais. Parce que le lendemain, je recommençais, donc au fond, non, je m'en fichais. Avant, je faisais beaucoup de sport, j'étais très 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 sportif. Je boxais, avant j'étais infatigable, j'étais toujours devant à courir avec le prof et tout le monde derrière, trois tours d'avance sur les gens. Et là j'étais là, troisième round, j'avais envie de vomir, chanter le shit, remonter dans ma gorge, la clope et tout. Plus le temps passe et plus on rentre dans ce mode de vie d'être un bédaveur. Je me suis pas rendu compte que ça prenait de l'ampleur. Je me suis pas rendu compte, ça s'est vraiment fait tout seul, avec les potes, avec les sorties. C'est vraiment un mode de vie, quelque chose, une façon de vivre qu'on adopte, parce que quand on fume régulièrement, on a notre comportement change, ça nique notre personnalité, ça nous rend apathique, enfin, on dépend de ça, et que par exemple, je sais pas, un jour on n'a pas de cheat, là j'ai pas de cheat, je vais pas dormir, du coup tu sors à je sais pas quelle heure pour aller en prendre, tu vas avoir des potes, de base vous fumez pas, mais là vous fumez parce que maintenant c'est devenu une habitude de fumer quand on se voit, et tout de suite c'est ouais, est-ce que t'as un peu de con, c'est ce que t'as de la beuh, t'en as pas, t'es chiant, c'est moi, je vais te passer encore et tout, voilà, puis après les gens deviennent radins, parce que c'est de l'addiction, et après on en veut pour nous, on dit putain j'aurais plus pour moi après, c'est toute une façon de penser qui change, et qui t'as pas la même avant, t'es là, tu rigoles avec tes potes, tu vas jouer à la play, bah je suis mangeant. On s'en rend même pas compte parce que c'est tellement ancré en nous que ben on sait plus quoi faire sans, genre. Je recherchais le fait de s'évader, de penser à rien, d'évacuer, de me dire que j'aurais plus de problèmes pendant un moment, que ça soit avec ses parents, avec l'école, avec tout. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait les problèmes après ils viennent aussi de ça, en fait, ils viennent de la fume. On se crée des problèmes, ouais, à cause de ça, parce qu'avant soit je travaillais pas de ouf à l'école, mais j'avais la moyenne. Je suis poli, ça allait, je faisais un peu le cancre, mais ça allait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à fumer, c'est rentré dans une autre catégorie beaucoup plus grave. Et que voilà, nos parents se rendent compte qu'on fume, ils nous passent moins d'argent. Parce qu'avant, j'en avais, ils me passaient tout le temps de l'argent, j'achetais des 50 balles de beuh. Après, quand ils se sont rendus compte que je fumais beaucoup, ils me passaient plus de thunes. Et là, j'ai commencé à vendre pour fumer gratuitement. Et après, l'argent, c'est devenu un autre problème après. Du coup, je suis rentré dans cet autre milieu. J'ai commencé à acheter des plaquettes pour les vendre. Je fumais encore plus. Mais après, il faut aller vendre à des gens parce que sinon, tu perds de l'argent. Ou sinon, tu te dis, bah ok, j'ai acheté une plaquette, mais là, dans 3 semaines, j'en aurai plus. Donc, ça sert à rien. Tu rentres dans un mood où, ouais, il faut que là, je fasse 150 euros. Là, il faut que je fasse 500 euros. Là, il faut que je fasse 600 euros. Après, parfois, tu vas demander à des gens, par exemple, des grands, on dit, des mecs de cité et tout ça, qui vont t'avancer des plaquettes, qui vont te les pousser, comme on dit, et donc ils vont te passer une plaquette que toi tu dois vendre. En fait, c'est que ça te fait rentrer dans un état de stress et d'anxiété de fou, parce que t'es là, tu te dis, ouais, il faut que je fasse tant. Et après, du coup, tu dis, ah putain, je préfère aller vendre qu'aller en cours, tiens, je vais me faire 300 euros là, hop, j'y vais. Puis après, du coup, tu rentres chez toi, t'as, je sais pas, t'es là un dimanche, ton père il te voit faire 5-6 allers-retours, il comprend pas. Et puis il commence à se poser des questions, il avait trouvé des plaquettes chez moi, il m'avait viré de chez moi du coup. Je suis parti habiter avec ma mère. Après, il me parentait tout le temps sur moi, tout le temps sur mon dos, à contrôler le moindre effet et geste, et du coup tu pètes un câble parce que tes parents sont sur toi et tout, tu sais que tu fumes et tout, mais toi tu t'en fous, t'es là, tu fumes encore plus et tout. Puis après moi j'ai continué à vendre, tu vas te taper avec des mecs parce que tu vas vendre là, t'es obligé d'être violent, t'es obligé d'être méchant, t'es obligé de parler d'une certaine façon, t'es obligé d'être aux aguets, s'il y a une sirène de police, s'il y a des flics qui viennent, aux civils, à tout ça, mais ouais, tu deviens méchant, ouais, tu deviens connard, quoi, un peu. C'est pas une vie, ça devient horrible, en fait, au fur et à mesure du temps. Au début, c'est cool. T'as ton argent, tu vas acheter tes grecs, tu vas acheter ta play, tu vas acheter ton téléphone, tout ça. Et après, tu te mets dans des situations de malade où t'aurais pas du tout à te mettre parce que t'en as pas besoin, mais t'es obligé parce qu'il faut ta conce, il faut que tu rendes le billet au mec. Voilà, c'est un cercle vicieux de ouf. Si tu rends pas l'argent que tu dois à un mec qui t'avance, tu te fais défoncer. Après, ça vient devant chez toi, ça vient sonner, ça vient prévenir les voisins en bas que voilà, ça casse ta porte, ça va voir tes parents, ça dit à tes parents que t'as pas rendu l'argent, que tu vends et tout, ça m'est déjà arrivé ça aussi, que tu dois tant et tout, et que mon père au final sorte de l'argent pour moi, genre 400 euros pour que je puisse pas me faire liquider, quoi. Même j'ai un pote une fois qui s'était fait séquestrer parce qu'il avait pas rendu l'argent, en fait, enfin, c'est qu'on voulait arrêter de vendre ce que je vendais avec un pote. Et le mec nous avait laissé une plaquette et on lui avait rendu son argent. Les moments où mon pote allait lui rendre les derniers argent, il l'a séquestré en fait. Et il l'a forcé à continuer à vendre et tout. Et il a dit, tant que tu me diras pas et que je te crois pas que tu vas continuer à vendre, bah tu resteras dans la cave, dans une cité, un sous-sol. Ils l'ont laissé et tout. Et voilà. Mais enfin, il y a des mecs qui tueraient pour ça. Hein. Dans le fond, ça reste du shit, et le shit, c'est le shit, c'est l'argent, et si tu rends pas, tu te fais défoncer, et voilà, c'est tout. Puis ma mère qui était complètement désemparée que je me mette dans des situations comme ça alors que j'avais pas du tout le profil. Mais en fait, c'est même pas une question de profil, c'est une question d'addiction. C'était pas facile. S'en est voulu, mes parents ils s'en sont voulus. Mais bon, c'était pas de leur faute. Pendant au moins un an et demi, j'ai vendu. Et jusqu'à quelques mois que j'ai arrêté tout ça. Mais du coup, le déclic, ça a été le fait que... j'en avais marre du stress, de cet état d'anxiété que j'avais tout le temps avec l'argent qui me rendait fou au final. En plus, parfois, je faisais bosser des gens pour moi. Des potes à moi en plus. J'ai perdu des potes comme ça d'ailleurs. Parce que t'es obligé d'avoir une attitude différente avec eux quand il s'agit d'argent et tout. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Que ça soit comme ça, que ça arrive à ce point-là et tout, et je me suis fait de la peine à moi-même et je me suis dit que non, putain, non. C'est compliqué au début quand on réalise qu'on est dans cette situation, que voilà, ça bouffe notre entourage, que ça bouffe nos amis, notre copine, tout ça, que ça nous bouffe nous-mêmes surtout. Au bout d'un moment, on a un déclic, mais après, ça a été difficile par rapport du coup à la consommation. Enfin, mes parents aussi ont pris les choses en main pour que je puisse arrêter, aller voir à la maison des jeunes, parler avec quelqu'un. Voilà, ça paraît un peu cliché tout ça, mais enfin, ça aide. Et je vois une addictologue, une psy-addictologue qui m'aide avec des médicaments pour combler le manque de cannabis, du tertian, du paroxétine. Ça comble un peu ton manque de nicotine, de fume. Et le tertian qui t'aide à dormir, c'est un truc qui te shoot un peu, mais qui fait que tu vas t'endormir à des heures convenables et te réveiller bien et à passer une bonne nuit sans avoir le besoin de fumer un joint le soir. Parfois, j'arrive à pas fumer pendant 2-3 jours, mais ça, c'est assez rare quand même. Parce que c'est vrai que c'est tellement une grosse addiction que faut pas arrêter du jour au lendemain. On peut pas arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible. Ton corps, il réagit. T'as les mains moites. Rien que là, j'ai les mains moites parce que j'ai envie de fumer. Je fais que fumer des clopes. Non, non, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Quand t'es normal, du coup, pas défoncé et que t'as beaucoup fumé avant, tu te sens... démuni, un peu vide, mais différent, mais en même temps mieux. Mais c'est de la confusion, tu sais pas vraiment si tu préfères être normal ou être défoncé. Mais être défoncé en soi, c'est bien parce que voilà, tu t'en fiches de tout un peu. Tu voilà, t'as un problème avec ta meuf, elle t'a quitté. Je fume mon joint, ça passe, je m'en fous. Alors qu'au final, si je fume pas, t'es en pleurs, mais je fume, je pleure pas. Je m'en fous. La vie est moins dure en étant défoncé. Voilà, on peut dire ça si on veut, mais ça devient beaucoup plus compliqué après. Au début, ça l'est, mais au long terme, ça détruit ta personnalité, les gens avec qui tu vis, toi, tout. Après, ça s'est amélioré avec mes parents. Ça reste toujours compliqué, mais c'est beaucoup mieux. Mon père est calme, ça va, c'est cool. Maintenant, il me fait plus chier pour la beuh, mais pour le chauffage qui est allumé, c'est un truc con, voilà, mais... Maintenant, ça va, c'est cool.
France Culture, les pieds sur terre.
Bon, je m'appelle Émile et j'ai 77 ans. J'habite Paris. J'ai un fils, Antoine. Il a 16 ans aujourd'hui. Antoine vit avec son père et sa mère qui sont séparés. Et dès la sixième, il était en défaut de concentration et d'autonomie. Les heures de cours, il les ratait. Il n'allait pas au bon cours, pas avec les bons cahiers et pas à la bonne heure. À 14 ans, malgré l'assistance scolaire qu'il avait, les résultats étaient toujours catastrophiques, très mauvais. Et on s'est aperçu qu'il fumait des joints avec deux, trois copains de lycée, de collège. On s'est rendu compte parce que ça sent. Quoi. Et puis alors il rentrait, tout de suite il allait se laver les dents ou se parfumer pour essayer de masquer, d'enrober l'odeur. retrouver des joints dans la cour qui étaient jetés directement par le balcon. Il n'y avait pas d'hésitation, c'était sa fenêtre, sa cour, c'était lui. Et j'en ai trouvé dans ses affaires. Et avec les cigarettes, il y avait du papier à rouler et puis des petits sacs avec des petites doses d'herbe. C'était de l'herbe. Il ne niait pas, mais jamais, il a dit « je fume tous les jours » et voilà. Et puis quand on discutait de ça, pour lui, fumer, c'était normal, tout le monde fumait, bon, donc c'était normal. Et la cigarette et le joint, ça fait partie du costume, quoi. Le costume d'ado, un ado qui fume pas, c'est étrange. Mais fumer beaucoup, c'est dangereux. Pour la croissance et pour la tête, les neurones foutent le camp à une vitesse grand V, quoi. Moi, quand j'ai connu la consommation de drogue, j'avais déjà 25-26 ans. J'avais déjà terminé mes études. Et j'ai fumé des joints, mais j'ai jamais pris de LSD, j'ai jamais pris des trucs durs, dont j'ai vu les effets sur certaines personnes qui ne s'en sont jamais récupérées, qui ont basculé dans une sénilité précoce, débilité même, débile. J'ai vu des gens rester débiles. Donc, c'est un niveau de consommation qui est dangereux. Quand ils sont ados, après, quand ils ont 25 ans, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas mieux pour autant, hein. Eux s'en foutent, ils ne peuvent pas réaliser, et quand on leur dit, on est taxé de vieux con qui n'est pas dans son époque, quoi. L'argument que j'avais aussi, c'était de lui dire, mais tu es dans un quartier magnifique, tu vis dans une ville intéressante, tu es en bonne santé, tu as des parents, tu as deux familles qui sont pas des gens trop sévères, ni trop has-been, ni... Et on a la possibilité de te faire faire des études que tu veux. C'est une chance inouïe. C'était une espèce de cours magistral que je faisais, parce qu'il n'a jamais répondu. Alors l'autre façon de le solliciter, je lui disais, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? T'as un fils qui fout rien, qui fume des joints, ça fait 4 ans, et ça n'évolue pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne réponse. Une discussion où je parlais seul, et à la fin il me disait, ça me saoule, voilà. Parce qu'il avait déjà entendu le truc, évidemment. Donc, il me dit, il faut que je trouve une solution auprès de gens qui ont réfléchi à ces questions. J'ai demandé à des amis, des psychothérapeutes et tout, comment faire, quoi faire, et on m'a indiqué la corde raide qui prend en charge ce genre de problème. Et je lui ai dit, on va aller à la corde raide, est-ce que tu es d'accord? Donc il a accepté, il était curieux et inquiet. Et puis, dès le premier rendez-vous, ça l'a un peu soulagé. Je pense que le déclic, c'est dangereux, quoi. Sa mère, elle a raté le rendez-vous. Bon, il y a un peu dans une part de déni de sa part sur le fait que son fils était dans la drogue et que je consultais un endroit pour droguer et que son fils n'était pas un drogué, donc c'était inutile d'aller là-bas, en gros. Et il est avec lui-même maintenant face à un défi. C'est une espèce de contrat que j'ai établi avec lui en lui disant, bon, on arrête de fumer et on se met à travailler. Moi, j'ai tout essayé personnellement, je n'en peux plus, lassé de répéter tout le temps la même chose, c'est épuisant. Maintenant, sa consommation, c'est pas moi qui peux t'empêcher de consommer, je peux pas te forcer à aller à l'école, je peux pas te forcer à prendre un imperméable quand il pleut. Tu te prends en main, parce que je lui dis, la confiance, ça se gagne. Si tu me racontes des histoires, j'ai plus confiance. C'est tout. C'est aussi dans ses remarques ou revendications, mais vous ne me faites pas confiance. Je ne lui dis pas je lui fais confiance, je lui dis arrête de fumer, c'est tout. S'il me dit je fume plus, je, a priori je le crois. Il a la seconde chance. Hein. Non, le rôle des parents, c'est d'être au moins là pour dire il faut arrêter, quoi.
There are three men in a boat with four cigarettes but no matches. How do they manage to smoke?
Il y a plein de noms pour dire un joint. Il y a joint, spliff, un J, les daves, ouais, c'est le verbe, fumer du cannabis, du shit, la beuh. Et pour la beuh, on la défripe pas, enfin, au doigt c'est compliqué, du coup on a des grinders. Et on grind la beuh, et du coup bah, après on la met, pareil, même principe que le shit, et on roule. Je m'appelle Alice, j'ai 16 ans, je suis en terminale L, dans un lycée du 13e arrondissement de Paris. Et j'habite à Vitry. Donc la première fois que j'ai fumé du cannabis, c'était avec ma meilleure amie. Au début des vacances d'été, quand j'étais entre la fin de la troisième et la seconde, on savait absolument pas comment s'y prendre, ni les dosages, ni comment fallait faire. Même fumer, on savait pas trop. Genre, on était un peu perdus. Elle avait déjà fait une fois avant avec une autre amie, du coup elle avait vu faire et elle m'a dit de m'occuper du shit, donc j'étais free. Et du coup bah c'est quand on, enfin généralement ça se fait avec le doigt pour le shit, du coup ben on fait un espèce de bol avec une main et après avec les ongles ben on gratte, ça fait un peu un truc poudreux bizarre et du coup bah après on le met avec du tabac et on roule et on fume. Elle s'est occupée faire un tonk, c'est comme une feuille Bristol qu'on prend pour faire les fiches de révision et on prend genre, une petite mesure, enfin de la bonne taille et après on le roule et bah au final elle a passé la feuille et ça a pas marché, et on s'est repris à plusieurs fois, on a déchiré la feuille, on a reroulé, c'était une galère mais au final bah on a réussi. Après bah j'ai commencé à fumer avec d'autres personnes, et surtout quand on était plusieurs, on mettait de la musique, on fumait dans les parcs, tout ça. À partir du moment où on commence à fumer régulièrement, tout ça, on aime bien pas fumer de manière normale, mais bon, commencer à faire des smoke tricks, on dit, des soufflettes, et oui, on a fait des bangs, et on était complètement éclatés après. On était posés sur un canapé, et on était comme des flans, c'était drôle. Du coup, j'ai commencé de plus en plus à bédave, et parfois, bah, on était un peu en galère, genre... on n'avait pas assez de shit sur nous. Ou... du coup, ben, je me suis dit, ben, pourquoi moi j'en aurais pas et je pourrais nous dépanner de temps en temps. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller chercher des dealers et trouver de l'argent aussi, parce que l'argent, faut le trouver. Je disais à mes parents que j'allais manger quelque part, sauf que c'était faux et que du coup, je gardais l'argent pour m'acheter de la conce avec. Et du coup, ben, le midi, je prenais à manger de chez moi en cachette et j'allais voir les dealers après les cours. C'était assez rapide, donc ils me passaient mon pochetard, donc avec ma conce dedans. Et en échange, ben, avec la même main, je prenais l'argent et ça se faisait rapide et après je partais. Et du coup, comme il m'en restait le soir, bah, je me suis dit, bon, bah, tiens, bah, pourquoi pas le garder. Comme ça, moi, je me fais mes petits joints toute seule, en saupère, comme on dit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fumer toute seule. Dès que j'en avais, en fait, je roulais un joint le soir et c'était pour le lendemain matin. Je fumais pas chez moi parce que c'est compliqué avec les parents, tout ça. Du coup, j'attendais d'être dehors. Même le matin, avant d'aller en cours, je me disais, bah, je suis dehors, il y a un parc derrière mon lycée, je vais aller au parc, je vais fumer mon joint avec ma musique et je vais en cours. C'était la même chose pendant la pause déjeuner, et c'était la même chose après les cours. Et si bah, le soir, il y avait une soirée, bah, je les comptais plus sur les doigts de la main. Enfin, c'est vraiment, on enchaînait tout le temps. Ça a continué comme ça pendant 2 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté. Bah, à l'école, j'ai mis un peu de côté. Mes parents, je les ai mis de côté. Ils me parlaient tout le temps de ça. Tous les soirs, quand je rentrais, ils me faisaient « oui, t'es défoncé ». Je leur disais « non », alors que c'était totalement faux. Sauf qu'après, ils le voyaient sur mon visage parce que j'étais marquée que... enfin, que j'avais fumé, quoi. J'avais les yeux assez fermés et vitreux et... j'avais deux tensions et j'étais pas... enfin, ils me disaient souvent que j'étais pas présente, quoi. J'avais aussi des amis qui fumaient pas de cannabis et qui me disaient « oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé ?» Et au bout d'un moment, bah, je me sentais oppressée et j'étais pas bien. Du coup, je continuais quand même à fumer parce que je me persuadais que c'était pas ça qui me faisait être comme ça. Enfin, je me suis dit que c'était, autre chose, que c'était mes parents qui avaient changé ou que... Enfin, je remettais beaucoup la faute sur les autres, en fait. J'étais super triste et je réfléchissais beaucoup, même pas à la fume, mais à tout en général, à comment je fais pour avoir des notes aussi nulles à l'école. Et il y a le comportement qui change aussi beaucoup. Je me souviens que j'étais super nerveuse. Enfin, c'est assez contradictoire parce que j'étais de tension totalement et en même temps, j'étais frustrée. Je pétais des câbles pour rien, en fait. Je devenais parano et j'entendais la voix de mes potes des fois quand je rentrais chez moi et je me sentais bizarre et je regardais autour de moi mais il n'y avait personne en fait, il y avait juste des gens, ils parlaient même pas, j'avais mes écouteurs, je les enlevais mais il n'y avait personne qui parlait. Physiquement, je me laissais aller surtout et avant de commencer à fumer, je me maquillais beaucoup et j'aimais bien m'habiller et tout ça. Et au moment où j'étais vraiment dedans, je me suis dit plus le temps pour ça, quoi, et on s'en fout, et on s'habille comme on veut, et si on veut être en pyjama à l'école, on va en pyjama à l'école, et je m'en fichais, quoi. Donc un jour, j'ai décidé d'arrêter, parce que j'étais paumée. C'est aussi la période du bac, en fait, du coup, je me suis dit stop. Il y a des personnes qui m'ont proposé leur aide, mon médecin généraliste, et même... mon copain, ma meilleure pote, elle était pas trop dans le soutien parce que elle me soutenait plutôt pour faire le contraire. Elle me tendait loin, elle me disait non mais tire une barre, juste une barre, tout ça. Et je disais non mais j'ai tout arrêté. Et depuis que j'ai arrêté, je me sens mieux dans ma tête, c'est-à-dire que je suis moins dans le flou et j'arrive plus à être claire dans mes décisions. J'arrive même à me concentrer déjà. Les cours, ça va mieux, je le sens au niveau des notes. J'encaisse mieux, en fait, ce que me disent les gens, même si c'est en mal. Ou... Je réfléchis mieux, en fait. Mon conseil, ce serait juste d'écouter les reproches des parents. Faut pas mal réfléchir aussi avant de le faire. Enfin, c'est pas la meilleure chose à faire quand on a déjà des problèmes. Du coup, maintenant, je roule des clopes.
C'était S'enfoncer dans la défonce, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Clémence Gross. Merci à Alex, Alice, Émile, au docteur Pauline Muffang, à Samuel Dupin et à Jean-Pierre Coutron. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire. Come back again. Every time she...